This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir avec la présidentielle française vue d'ailleurs. Ce soir, Alger et Londres dans le journal de l'international de Michael Thébault. Un jour dans le monde numérique avec un meurtre sur Facebook, du soutien pour les lanceurs d'alerte et les secrets de la Corée du Nord. On voit tout cela avec Julien Baldacchino. 18h55, l'édito sur une autre élection locale mais peut-être cruciale. C'est en Indonésie, analyse de Vincent Giray du quotidien Le Monde. Et pour l'instant, on file à Washington.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Washington, où nous attend l'ambassadeur de France aux États-Unis, Gérard Haro. Les fondus de Twitter le suivent peut-être. Il est très actif sur ce réseau social. Plusieurs dossiers au menu de notre entretien. L'Amérique de Trump, évidemment, l'ONU, l'Europe, la Syrie. Je salue donc monsieur l'ambassadeur Gérard Haro. Bonsoir. Petit décalage.
Bonjour.
Ah oui, voilà. Bonjour chez vous, bonsoir chez nous. Hein. Il y a un petit décalage avec la liaison satellite. Quelques petites microsecondes qui vont peut-être nuire à la fluidité, mais pas à la qualité de notre entretien. Dites-nous, Gérard Haro, ça sert à quoi un ambassadeur de France aux États-Unis ?
Ah ben ça, c'est une bonne question. Et c'est une question que je me suis posée en arrivant, parce que les relations entre les États-Unis et la France sont à ce point intenses qu'on peut se demander ce que peut faire un ambassadeur pour faire une petite différence. Il y a des milliers d'entreprises françaises aux États-Unis, américaines en France, des centaines de milliers de Français vivant aux États-Unis. En plus, les relations politiques au plus haut niveau se font maintenant directement par des liaisons protégées entre Paris et Washington. Et donc, l'ambassadeur de France est peut-être condamné à devenir celui qu'une marque de chocolat a rendu célèbre. Et donc moi, ce que j'ai essayé de faire,
il est bien connu pour le bon goût du maître de maison, c'est ça ? C'est à cette
exactement.
Marque de chocolat. Hein,
et donc je pouvais très bien. Exactement, voilà. Et donc, on ne peut pas être ambassadeur de la même manière à Pékin et à Washington, à Moscou ou à Washington. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui caractérise les États-Unis ? 80% de l'information des Américains, ça passe par les médias sociaux. Eh bien, essayons d'être présents sur les médias sociaux. Mais ce qui veut dire aussi qu'on ne peut pas parler comme un diplomate traditionnel. Mmh. Si vous dites simplement des banalités diplomatiques, vous ne serez pas écouté.
Pour l'administration Trump, monsieur l'ambassadeur, la France, c'est quoi ?
Alors, pour l'administration Trump, la France, c'est d'abord, et c'est ce que m'a dit le secrétaire à la Défense, Mattis, le meilleur allié des États-Unis sur les champs de bataille. Les États-Unis ont une extraordinaire estime et admiration pour ce que nous faisons, ce que nos soldats font sur des champs de bataille particulièrement difficiles comme le Sahara, mais aussi au Levant. Nous sommes un allié sûr, un allié fidèle dans la lutte que nous menons contre le terrorisme international.
Et vous êtes sûr que, à part ces heures glorieuses de notre histoire, la relation reste tout de même intense ?
Alors, la question peut être posée pour l'ensemble de la politique étrangère de Donald Trump. Pour des Français, c'est difficile à comprendre, mais une transition, ça prend des mois. Parce que d'abord, très souvent, le président des États-Unis qui vient d'être élu n'a aucune expérience. Obama n'avait été que sénateur de l'Illinois 2 ans, et Donald Trump est un homme d'affaires. Donc il y a une période, en gros, d'apprentissage. Nous sommes dans cette période d'apprentissage. En plus, un président, lorsqu'il arrive, doit nommer 4000 hauts fonctionnaires, parce que ils sont tous partis le 20 janvier, le jour de l'inauguration, dont 700 doivent être confirmés par le Sénat. C'est donc un processus extrêmement long. Et donc, nous sommes encore dans la phase d'apprentissage de l'administration Trump. Nous ne savons pas quelle sera la politique de l'administration Trump vis-à-vis de la Russie, par exemple, ou même vis-à-vis de la Chine. Peu à peu, ils sont en train de la définir. Alors, quelles seront les relations de l'administration Trump avec la France ? Je crois qu'il faut attendre d'abord l'élection française. Il faut attendre que le nouveau président français rencontre son homologue américain.
Et Gérard Haro, alors pour essayer de voir dans le passé le plus récent, la France pour l'administration Obama, c'était quoi ?
La France, pour l'administration Obama, c'était un allié sûr. Nos relations étaient absolument excellentes. J'ai parlé des champs de bataille, de ce que nous faisons aujourd'hui encore, mais il y avait par exemple la coopération très étroite que nous avons eue sur la lutte contre le changement climatique. La COP21, ce succès magnifique, a été dû en partie à l'engagement personnel de Barack Obama, qui a réussi à convaincre les Chinois de participer à l'exercice, ce qui a été évidemment absolument crucial pour le succès final.
Est-ce que vous connaissiez l'Amérique qui a voté Trump, Gérard Araud, celle qui a surgi lors de l'élection, celle qui a fait l'élection et que peu de monde avait vu venir ?
Peu de monde, c'est même beaucoup de dire ça.
Oui,
c'est,
personne, et sans moi, doute le mot exact.
Moi, je pas rencontré personne. Oui, parce que moi, à 6h du soir, le 8 novembre, donc le jour de l'élection, à 6h du soir, l'équipe de Clinton me disait « elle est élue ». Les principaux sondeurs me disaient « elle est élue ». Et j'appelais l'équipe Trump et on me répondait d'un air totalement défait « il a une chance sur 5 d'être élu ». Donc l'élection a vraiment été une surprise. Je n'ai rencontré aucun sondeur, je n'ai rencontré aucun républicain de Washington qui m'ait dit il va gagner. Ça a été une surprise totale. L'élection s'est faite contre Washington, c'est-à-dire d'une certaine manière contre les Américains que je fréquente, républicains et démocrates, et contre Wall Street. C'est la rébellion d'une certaine partie de l'Amérique contre les élites. C'est un phénomène tout à fait comparable à celui que nous connaissons en Europe.
On va y venir évidemment, Gérard Araud. Un mot de votre poste précédent. Vous avez été ambassadeur de France auprès de l'ONU en pleine crise syrienne, notamment. Sur ce drame, est-ce que l'Amérique d'Obama n'a pas été catastrophiquement faible ?
Obama a été élu après les aventures militaires de George W. Bush, l'Irak et l'Afghanistan, qui étaient considérés comme des désastres par la majorité de l'opinion publique américaine. Et donc, il a jugé que c'était quasiment son obsession, c'était le retrait américain de ses champs de bataille. Et vis-à-vis de la crise syrienne, il est évident qu'il n'a pas voulu que les États-Unis soient engagés dans un nouveau conflit. J'ajouterai que Obama, contrairement à ce que pensent beaucoup d'Européens, est un réaliste, c'est un intellectuel réaliste froid, et il a jugé que les intérêts vitaux des États-Unis n'étaient pas engagés en Syrie, et que donc les États-Unis n'avaient pas à prendre le lead sur ce sujet.
Rupture profonde avec Donald Trump ?
Alors ça, c'est en effet une question difficile. Parce que beaucoup de commentateurs ont essayé de définir une doctrine Trump à partir de ses discours de campagne électorale. Mais c'était en réalité artificiel. Nous ne connaissons pas Donald Trump. Ce n'est pas un vrai républicain. Il a toujours voté démocrate, d'ailleurs. Et donc, il est difficile de savoir ce que sera cette politique étrangère de Donald Trump. Regardez les frappes en Syrie. D'un certain point de vue, vous pouvez dire, oui, c'est une rupture par rapport à ce que faisait Obama. Mais quelle est leur signification ? Si c'est simplement frappé une fois, franchement, je ne suis pas convaincu que c'est beaucoup d'influence sur les événements. Mais si c'est le début d'un processus de négociation, si c'est une manière de rétablir un rapport de force avec les Russes et qu'une négociation dont nous avons besoin, en particulier avec la Russie sur la Syrie, alors là, ça peut être quelque chose de novateur. De nouveau, nous ne savons pas.
Oui, il faut attendre de voir. Alors, on en sait un peu plus peut-être en ce qui concerne la relation de l'administration Trump, ou en tout cas de Donald Trump lui-même avec l'Union européenne. Donald Trump s'est réjoui du Brexit. Il a indiqué qu'il y en aurait d'autres et que ce serait formidable. Est-ce que les États-Unis de Trump veulent activement la peau de l'Union européenne ?
Vous savez, il a dit la même chose de l'OTAN. Il a dit l'OTAN est une organisation obsolète et il a reçu il y a 2 jours le secrétaire général de l'OTAN en disant non, l'OTAN n'est pas une organisation obsolète, c'est une organisation indispensable. En ce qui concerne l'Union européenne, son réflexe, si j'ose dire, c'est de considérer que les relations internationales, ça ne passe pas par les organisations multinationales, mais ça passe par les États. Et donc, pour lui, il veut traiter avec le Royaume-Uni, il veut traiter avec l'Allemagne et avec la France. C'est ça. L'Union européenne, les Nations unies, ce sont des organisations pour lesquelles il a mépris, ignorance ou indifférence au mieux.
Est-ce que
il rencontre Madame... Cela étant, lorsqu'il a rencontré la chancelière Merkel, par exemple, celle-ci lui a dit que les relations commerciales avec l'Europe, c'était par l'intermédiaire de l'Union européenne. Et lorsque la première ministre britannique, qui est venue le voir quelques jours après son élection, l'a rencontré, elle lui a dit elle-même que l'intérêt britannique était d'avoir une Union européenne solide et unie. Donald Trump, c'est un pragmatique. Ce n'est pas un idéologue. Il est prêt à être convaincu si vous lui avancez de bons arguments.
Mais est-ce que vous ne croyez pas, Gérard Haraud, qu'il ne fait qu'amplifier un mouvement qu'avait théorisé et mis en pratique Barack Obama, à savoir le pivot vers l'Asie? Là, c'est peut-être une forme un peu moins polissée de relation avec l'Europe. Mais au fond, est-ce si différent substantiellement?
C'est une très bonne question. Je crois que très souvent, les commentateurs exagèrent, je dirais, la rupture que peut représenter la diplomatie telle qu'on peut la deviner de l'administration Trump par rapport à la précédente. Mais cela étant, déjà à la fin de l'administration Obama, nos interlocuteurs se rendaient compte qu'il y avait une crise européenne et donc que cette crise européenne, c'était un risque pour les intérêts américains. Et donc, par exemple, vous vous rappelez que quelques semaines avant le vote de Brexit, Barack Obama était allé à Londres pour dire « je suis favorable à l'Union européenne ». Il y avait eu un réveil de l'administration Obama à la fin. Parce que c'est vrai que Obama lui-même, vous voyez, il est né à Hawaï, il a été élevé en Indonésie, et pour lui, l'avenir du monde, c'était entre New Delhi et Los Angeles. Ça, c'est exact personnellement. Mais je peux vous dire qu'à Washington, il y a eu un réveil des Américains lorsqu'ils ont découvert qu'il y avait une crise et une crise sérieuse en Europe.
Restons dans l'Union européenne, Gérard Haraud. Beaucoup de candidats à la présidentielle française sont soit eurosceptiques, soit europhobes. Certains veulent ou disent vouloir la sortie de l'Union, un Frexit. Est-ce que vous pourriez être l'ambassadeur de cette France-là, d'une France sortie de l'UE ?
Vous savez, je peux vous répondre que j'ai 64 ans, que je quitte mon poste dans quelques semaines et que donc la question ne se posera pas pour moi. Je n'utiliserai pas cette esquive. En réalité, non. Pour moi, l'appartenance de la France à l'Union européenne, c'est pas une politique comme une autre. C'est un choix de civilisation, un choix de société que nous avons fait après deux guerres mondiales et un génocide. C'est essayer de transformer la confrontation naturelle entre États en une coopération. Donc, je ne me vois pas. Contribuer d'une manière ou d'une autre à ce que vous appelez le Frexit. Du côté américain, les Américains commencent à se rendre compte qu'il y a là un danger. Non seulement l'Union européenne, mais aussi évidemment l'euro. La fin de l'euro, ce serait une crise financière mondiale. Donc ils commencent à s'inquiéter de ce point de vue.
Merci Gérard Haraud, merci Excellence comme on dit. Je rappelle que vous êtes ambassadeur de France aux États-Unis. Merci à Frédéric Carbone, notre correspondant sur place, qui nous a permis de vous avoir ce soir au micro de France Inter, et encore mille excuses auprès des auditeurs pour ce léger décalage dans la liaison qui nuisait à la fluidité de cette conversation, mais encore une fois, pas à son intelligibilité. Merci encore Monsieur l'ambassadeur. Dans quelques instants, le journal de l'International. 18h30. 4, merci d'écouter le 18-20 d'Inter. Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
À 4 jours du premier tour de la présidentielle en France, suite de notre série La Campagne vue d'ailleurs, Michael, avec deux nouvelles destinations ce soir, Londres dans un instant, mais d'abord Alger.
Et oui, l'Algérie, sans doute le pays hors d'Europe où ce scrutin est le plus suivi, le plus commenté, car au-delà évidemment d'une longue et parfois douloureuse histoire commune, les relations entre Paris et Alger se sont considérablement réchauffées depuis 2012. La France est aujourd'hui et de loin le premier investisseur étranger en Algérie, également premier exportateur, avec près de 7 milliards d'euros d'exportation par an, sans compter bien sûr ces milliers de familles qui ont un ou plusieurs proches vivant en France. Autant de raisons de prêter attention à cette présidentielle française. Et souvent, vous allez l'entendre avec des avis très divergents, comme l'a constaté dans les rues d'Alger notre correspondante Leïla Berato.
Dans ce café, les télévisions tournent en boucle. De temps en temps, les informations françaises apparaissent à l'écran. Reda, le patron, a suivi une interview de Marine Le Pen.
Je ne suis pas trop d'accord avec sa politique. Je crois que si elle va être élue, elle ne va pas porter beaucoup de choses pour les Français.
Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent qu'ils vont voter pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
Je ne suis pas trop inquiet. Je crois que je vais m'inquiéter pour mon pays, je crois. Nos politiciens, qu'est-ce qu'ils vont apporter en avenir? Quel est le prochain président pour l'Algérie? Qu'est-ce qu'il va apporter pour les jeunes? C'est ça.
Depuis 10 jours, l'Algérie est en pleine campagne électorale pour les élections législatives. Mais cela ne suscite pas vraiment d'engouement. Sur la place du marché Messonnier, Hamid et ses amis du quartier, tous retraités, n'ont pas un regard pour les affiches des candidats collées sur les panneaux, mais ils ont un avis bien tranché sur les candidats à l'élection présidentielle française. Leur favori, c'est Emmanuel Macron, le seul candidat à avoir fait le déplacement en Algérie, et la presse rapporte même que le président Bouteflika souhaitait le recevoir. Hamid, lui, est persuadé que l'ancien ministre français remportera l'élection.
Moi, le programme politique de Macron, il me plaît, il n'est pas très, il n'y a pas une très grande différence entre lui et Mélenchon. Pas très grande différence, mais il me plaît, c'est un programme politique qui me plaît.
Mélenchon, c'est un monsieur qui est près de la France d'en bas. Je crois que c'est le seul homme politique français qui dit des vérités aux Français.
Trotskiste, pour moi, c'est un peu communiste, Mélenchon.
Mais donc ça veut dire que vous suivez attentivement quand même?
Oui, nous suivons la politique.
On s'intéresse aux élections françaises. Pour l'Algérie, nous pensons qu'avec Macron, il y aura de très bonnes
peut-être
relations.
Peut-être des nouvelles. Peut-être,
il est déjà venu, il a parlé des méfaits de la colonisation.
Tout ça. L'Algérie moyen, il y a un peu accroché.
On espère. Nous espérons avec lui.
Débats, meetings, déclarations publiques, ce que disent les candidats français est également suivi par la presse algérienne et commenté. Ce jour-là, sur Radio M, une radio indépendante qui réunit chaque semaine des journalistes pour l'émission Café Presse Politique, le sujet, c'est la visite de Bernard Cazeneuve et la fin du quinquennat Hollande.
Moi, ce que je veux observer quand même, c'est surtout la fin de la période Hollande. Au début de la période Hollande, le voyage de 2012... Le rapport de force était quand même différent de celui que nous avons aujourd'hui. En termes de négociations économiques, l'Algérie était quasiment au sommet de ses excédents et la France pataugeait dans la crise souveraine en France, la crise en Europe, la crise de l'euro et la difficulté à redresser les déficits en France. On se rappelle de la promesse de Hollande de redresser la courbe du chômage. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rééquilibré et on n'est pas loin du seuil où c'est l'Algérie qui va se retrouver en position de faiblesse.
Au sujet de cette visite, en fait, il me semble que Cazeneuve est venu refermer une période de détente quand même entre l'Algérie et la France.
Dans l'establishment français, l'Algérie relève plus de la politique intérieure que de la politique étrangère. C'est comme ça qu'ils perçoivent en tout cas leur relation avec l'Algérie.
La principale préoccupation reste la question de la circulation entre les deux pays. Visa, études, résidence, nationalité, certains sont inquiets, mais la plupart des observateurs estiment que, quelle que soit l'issue de l'élection, les pays sont irrémédiablement liés par l'histoire et par les enjeux internationaux d'aujourd'hui.
Reportage à Alger, signé Leïla Berato.
Et après Alger, direction maintenant Londres, Michael.
Oui, Londres, où l'on suit aussi très attentivement, vous l'imaginez, cette campagne française. Et avec cette question, qui sera le futur interlocuteur de la Première Ministre Theresa May dans les négociations sur le Brexit? Bonsoir Antoine Gignot, en direct de Londres.
Bonsoir.
Alors parmi tous les candidats à cette présidentielle française, il y en a un qui intrigue particulièrement les Britanniques, Antoine, c'est Emmanuel Macron.
Avec plusieurs dizaines de financiers de la City, oui, de businessmen, de jeunes cadres venus assister hier soir à une réunion publique du mouvement En Marche à la tribune. Nick Clegg, libéral-démocrate, parle de l'Europe et c'est justement ce qui intéresse Jonathan. Il travaille dans la restauration et il espère que le prochain président français, quel qu'il soit, empêchera l'Union européenne de se disloquer.
C'est quelque chose qui manque dans les débats. Au Royaume-Uni, en ce moment, le gouvernement conservateur est en train de mettre en place le Brexit sous sa forme la plus extrême. Si malheureusement Madame May reste aux commandes, la seule forme d'opposition qu'on pourra avoir viendra de l'Europe. Il faut que quelqu'un assure la défense du monde libéral. Et mon Dieu, surtout qu'on évite que son interlocutrice soit Madame Le Pen.
Antoine ? Antoine Gignot en direct de Londres.
Petit souci de liaison.
Ben écoutez, je crois qu'on a perdu Antoine Gignot.
Totalement. Totalement. On ne sait pas ce qu'on...
Ah si, ça y est. Il est revenu, Antoine, on vous a retrouvé.
La distance sous oui. Le tunnel de la Manche.
Certainement.
On parlait du Front National. On terminait en parlant du Front National. Le Front National, il faut que vous sachiez que c'est l'autre préoccupation des Britanniques. Ces dernières semaines, les responsables de plusieurs banques ont rencontré l'équipe de campagne de Marine Le Pen. La candidature est prise très au sérieux après avoir longtemps pensé qu'elle ne pouvait pas être élue. Virginia, trentenaire, s'interroge.
Là, j'ai peur, tout simplement, parce qu'il y a eu Trump et il y a eu le Brexit. Personne ne s'attendait à ça. Je ne veux pas que le Front National gagne. Tout le monde dit qu'elle ne peut pas gagner au deuxième tour, mais peut-être qu'on se trompe. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui peut arriver si les réseaux sociaux font changer les gens d'avis? C'est vraiment très inquiétant pour nous tous.
Et plus que de l'inquiétude, c'est l'incertitude de la campagne française qui se ressent ici. Rainbow Murray est professeure de sciences politiques à l'université Queen Mary de Londres. Et ce qu'elle retient de la campagne, c'est une longue succession de bouleversements.
Tout d'abord, on croyait que ce sera Alain Juppé ou sinon Nicolas Sarkozy qui serait le candidat des Républicains. C'était pas prévu que ce soit François Fillon. Ensuite, on a dit, bon voilà, ce sera Fillon président. Ensuite, on a eu Penelope Gates et puis Emmanuel Macron est devenu le plus probable. Benoît Hamon, il n'a que 9% dans les sondages, ce qui est incroyable. Il n'y a vraiment aucun candidat idéal.
Voilà, aucun candidat idéal, dit-elle. Et en plus, Antoine, une nouvelle inquiétude qui est encore montée d'un cran ces deux dernières semaines.
Avec la montée en puissance dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon et de l'extrême-gauche, c'est ce que dit Jonathan Fenby, ancien rédacteur en chef de The Observer, spécialiste de l'histoire contemporaine française. Il dirige désormais un cabinet de conseil à Londres.
Moi, je travaille beaucoup avec le monde des finances et les gens me téléphonaient disant « Est-ce que c'est vrai que ce sera le deuxième tour entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ?» C'est une espèce de frisson, ça, qu'on a. « Ah !» Quelque chose de nouveau. C'est pas M. Macron qui est un peu trop bien élevé et qui représente les marchés, le libéralisme social, l'Europe, etc., etc. Il n'est pas très excitant. Fillon, il n'est pas très excitant non plus pour les Anglais. Tandis que l'idée d'une bataille Le Pen-Mélenchon, les Anglais adorent dire « Ah, la France est au bord du chaos ». Mais la grande question pour moi, c'est pas seulement l'élection présidentielle, mais ce qui se passe après avec les élections législatives.
Bon alors Antoine, du point de vue britannique, quel serait le candidat idéal, en tout cas celui qui pourrait le mieux négocier le Brexit ?
Eh bien, chaque réponse est différente, hein, mais les conservateurs se sentent majoritairement plus proches de François Fillon et de ses idées, proches de celles de Margaret Thatcher. Ils pourraient aussi négocier avec Emmanuel Macron s'il fallait. Ce qu'ils espèrent, avant tout, les Britanniques, c'est un interlocuteur capable de négocier sereinement, explique Philippe Marlière, professeur de sciences politiques au University College de Londres.
Je voudrais un négociateur français qui puisse rendre la sortie de l'Union européenne britannique la plus confortable et facile possible. Macron est quelqu'un qui
finalement est beaucoup plus compris, je dirais, en Grande-Bretagne qu'en France, parce qu'il est doublement libéral, il affiche un libéralisme économique, ce qu'on peut appeler le néolibéralisme, et il affiche aussi un libéralisme culturel, politique. Le candidat qui promet une continuité tout en faisant des changements importants, puisqu'il y a toujours cette image un peu stéréotypée, vue de Grande-Bretagne, d'une France économiquement trop rigide, qui a besoin de s'ouvrir au marché, à la flexibilité, etc. Donc, en quelque sorte, un Tony Blair de la première époque, d'avant la guerre d'Irak, qui séduisait beaucoup les Britanniques aussi.
Tony Blair qui s'est très peu exprimé sur la campagne française, tout comme le chef actuel de la gauche, Jeremy Corbyn, très proche de Benoît Hamon dans son positionnement. La gauche travailliste qui reste d'ailleurs comme le Parti socialiste, très bas dans les sondages.
Antoine Gignot en direct de Londres. Merci Antoine.
Et comme chaque mercredi, place maintenant Mickaël à l'actualité européenne en direct de Bruxelles où c'est encore le Brexit qui domine.
Oui, a fortiori bien sûr depuis l'annonce hier par Theresa May de la tenue d'élections législatives anticipées le 8 juin prochain. Prochaine annonce qui coïncide avec toute une série d'études, Nicolas, sur les conséquences très concrètes du Brexit. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Nicolas, bonsoir Mickaël et bonsoir à tous.
Alors, on va rentrer dans le concret. Première question pour laquelle on commence à avoir un début de réponse, Quentin. Le Brexit, une fois enclenché, où iront donc les banques ?
Eh bien, élections législatives anticipées ou pas, cela ne change pas grand-chose à la saga du Brexit. Et pour les Anglais, chaque semaine apporte son lot de déconvenues imprévues. Ainsi, commence-t-on, vous le disiez, outre-Manche, à mesurer dans le détail ce que signifiera la fin de l'accès au marché unique des capitaux de l'UE pour la place financière de Londres. En clair, ce que s'apprête à décider les grandes banques londoniennes qui seront bientôt obligées de créer ou d'agrandir des succursales opérationnelles hors du Royaume-Uni. Ces banques étant en grande partie d'origine américaine, elles ne sont pas excessivement attachées sentimentalement au bord de la Tamise. Et elles ne cachent pas qu'elles prévoient de déménager vers l'un ou l'autre pays de l'UE. Selon une étude toute récente, ce sont Francfort sur le Main, Dublin et Luxembourg qui arrivent en tête de leurs intentions, suivis à distance par Amsterdam et par Paris.
Et deuxième question, Quentin, où iront les agences européennes qui sont actuellement basées sur le sol britannique ?
Oui, les agences, ces espèces de mini-institutions spécialisées de l'Union européenne. On en dénombre 36, volontairement réparties un peu partout parmi les États membres. Les Britanniques en hébergent actuellement 2, l'Agence européenne des médicaments, qui emploie directement 900 personnes, et l'Autorité bancaire européenne avec ses 160 salariés, toutes deux basées à Londres. On peut y rajouter le centre de recherche de Culham, près d'Oxford, et son accélérateur de particules, impossible évidemment à déménager, et bientôt en panne de subvention de l'UE. Le gouvernement britannique, qui pensait pouvoir négocier le maintien des agences en Angleterre, vient de se faire confirmer assez sèchement qu'il n'en est absolument pas question. Les Allemands salivent déjà à l'idée de récupérer l'autorité bancaire.
Eh ben, c'est comme ça, c'est la série. Vous êtes toujours là, Quentin, ou pas ?
Pour des raisons plus obscures. Je suis toujours là. Êtes-vous là également ?
Oui, on vous écoute.
Oui, on est toujours là. M'entendez-vous ? M'entendez-vous ?
Oui, Quentin. Oui. On aimerait avoir la chute finale.
Oui, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Oui, je vous disais. Oui, absolument, j'y arrivais justement. Et je vous disais que les Allemands étaient très contents à l'idée peut-être de récupérer l'autorité bancaire, eux qui ont chez eux la Banque Centrale Européenne, alors que les Roumains, pour des raisons plus obscures, voudraient bien attirer chez eux l'Agence des médicaments. Mais Berlin et Bucarest, vous en doutez bien, sont loin d'être les seuls candidats en lice. La bataille s'annonce d'ores et déjà sanglante.
C'est bon, on a la chute. Merci Quentin Dickinson en direct de Bruxelles.
Et pour finir, deux infos en bref, Mickaël. La première en provenance du Canada.
Oui, le Canada où la une du jour est à mille lieues du Brexit ou de notre présidentielle, puisque tous les médias du pays couvrent, comme on dit depuis hier, une actualité très judiciaire. Retentissant procès de deux hommes, deux dirigeants de branches dissidentes de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. C'est l'autre nom de l'église mormone, dont le siège, vous le savez, est à Salt Lake City, dans l'Utah, aux États-Unis. Ce procès s'est ouvert à Cranbrook, en Colombie-Britannique. Troisième et peut-être dernier épisode d'une saga judiciaire qui dure depuis plus de 20 ans, car ces deux hommes plaident non coupables depuis le début, s'abritant derrière la Constitution canadienne. Alors de quoi sont-ils accusés, Nicolas ?
Je ne sais pas.
Eh bien, de polygamie. Polygamie interdite par la loi au Canada depuis 127 ans, mais pas vraiment par la constitution du pays, qui est en la matière plutôt floue. Résultat, le premier des deux prévenus revendique légitimement 4 épouses et 31 enfants, et le second, tenez-vous bien, 24 femmes et 146 enfants.
Rien que ça.
Rien que ça. Allez, petite devinette pour terminer. Quel est le rapport entre ça
Ça fait mal, hein.
C'était quoi?
Je sais pas.
C'est un camion poubelle.
Ah.
Et rapport entre ce camion poubelle et ça.
Là, on est dans l'espace.
Vous brûlez. On parle de déchets spatiaux avec cette nouvelle étude publiée hier par un collège scientifique international, collège qui alerte sur le danger croissant que représentent les déchets spatiaux accumulés pendant près de 6 décennies d'exploration spatiale. Danger évidemment pour les satellites et pour les missions habitées. Le risque de collision avec des débris est statistiquement faible, mais il a augmenté au fil des missions, dont la première avait eu lieu avec l'Union soviétique en 57, Sputnik 1, premier satellite artificiel. Mais aujourd'hui, les morceaux de fusées, de satellites en fin de vie, les outils perdus par des astronautes, bah, tous ces objets ne cessent de se multiplier. Se déplaçant, faut quand même le rappeler, à 28 000 km/h. Et à cette vitesse, évidemment, même un tout petit objet peut causer d'énormes dégâts. En 93, des radars avaient localisé 8000 objets mesurant plus de 10 cm. Aujourd'hui, il y en a 5000 qui mesurent plus d'un mètre, 20 000 plus de 10 cm et 75 000 de la taille d'environ 1 cm. À demain, Nicolas.
À demain, Michael, 18h50.
Puis tu me filerais un coup de balai parce qu'hier, c'était vraiment dégueulasse.
Un jour dans le monde sur France Inter.
Un jour dans le monde numérique. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On revient cette semaine sur l'histoire qui a secoué le monde des réseaux sociaux, ce meurtre en direct sur Facebook Live.
Oui, et le premier acte de l'histoire s'est achevé hier avec le suicide de cet homme qui a commis un meurtre à Cleveland aux États-Unis en le diffusant en direct sur Facebook via l'outil Facebook Live. L'affaire a vivement choqué. Il pose surtout une question: comment une telle vidéo a-t-elle pu arriver sur Facebook et y rester aussi longtemps, puisque selon le déroulé des faits donnés par Facebook, une première vidéo a été publiée dimanche à 11h09, très exactement, et le compte du suspect n'a été désactivé qu'à 13h22. La vidéo d'un meurtre est donc restée publique plus de 2 heures. Alors, première raison, il n'y a eu aucun signalement d'utilisateur de cette vidéo, ni pendant le direct, ni même dans l'heure et demie qui a suivi. Deuxième erreur, elle vient des modérateurs de Facebook qui n'examinent les vidéos qu'à partir d'un certain seuil de visite, seuil qui n'a donc pas été atteint. Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, a profité d'une conférence hier pour revenir sur le drame.
Our hearts go out to the family and friends.
Nos pensées vont à la famille et aux proches de Robert Godwin Sr. Nous avons beaucoup de travail et nous continuerons de faire tout ce que nous pouvons pour empêcher ce genre de tragédie d'arriver.
Alors cela devrait passer par la mise en place d'une deuxième couche de surveillance des vidéos qui serait assurée par une intelligence artificielle capable d'identifier des éléments problématiques dans les Facebook Live. Solution qui avait déjà été évoquée en février dernier après le suicide d'une jeune américaine en direct, mais qui devrait mettre quelques années avant d'être pleinement opérationnelle.
Aux États-Unis toujours, Julien, un pilier de l'Internet s'investit en faveur des lanceurs d'alerte.
C'est la fondation Mozilla à qui l'on doit le célèbre navigateur web Firefox. Alors il faut savoir que ce n'est pas une entreprise, mais une fondation à but non lucratif qui, d'après son manifeste, protège le choix et l'innovation sur Internet. Fin de citation. Et parmi ses actions figure le Mozilla Open Source Support, un programme de soutien financier à des projets qui se rapprochent de cette ligne éditoriale. Et cette année, la fondation a attribué 250 000 dollars, soit 70% de son enveloppe, à une plateforme qui s'appelle SecureDrop, un outil à destination des lanceurs d'alerte. Explication dans une vidéo postée par Mozilla avec Trevor Trim de la Fondation pour la Liberté de la Presse.
SecureDrop est un outil que les médias peuvent installer et utiliser pour recevoir des informations et des documents des lanceurs d'alerte de façon plus sécurisée et plus anonyme que des appels au téléphone ou des emails.
Et donc pour obtenir la confiance de la communauté de la cybersécurité, c'est un logiciel libre, donc transparent.
C'est important que ce soit un logiciel libre. Nous voulons être complètement transparents sur ce que nous faisons, ce que nous construisons et pourquoi nous le faisons.
Alors ce logiciel est notamment utilisé par le New Yorker aux États-Unis ou le Guardian en Grande-Bretagne, mais pas en France où c'est un autre outil qui s'appelle Source Sûre qui est utilisé.
Et en pleine tension, Julien, avec la Corée du Nord, une équipe de chercheurs tente de percer le secret qui entoure l'arsenal nucléaire de ce pays.
Et alors que la communauté internationale s'inquiète de la possibilité d'un nouvel essai nucléaire ordonné par Pyongyang, il est désormais possible de visiter sur Internet en 3D un complexe de tests nucléaires caché sous une montagne. C'est le site qui est soupçonné de pouvoir abriter le nouvel essai nucléaire. Et la topographie a été réalisée par l'Institut d'études internationales de Monterrey en Californie. Alors, on peut se demander à raison comment on peut faire la carte d'un lieu secret dans un pays presque inaccessible. Eh bien, tout cela est permis par les ondes sismiques, car le site sert à faire exploser des bombes de test sous la montagne depuis un petit peu plus d'une dizaine d'années. Alors, ça ne provoque aucune réaction visible à l'œil nu à la surface. En revanche, les appareils de mesure sismique captent les ondes. Il suffit donc de regarder d'où elles viennent un petit peu à la manière d'un sonar pour connaître la morphologie des lieux. C'est une exploration sommaire mais suffisante pour prendre conscience de ce à quoi ressemble un site d'essai nucléaire.
Et le lien pour y accéder, c'est sur franceinter.fr. Merci Julien Baldacchino. Stand by me dans une version qu'on doit donc à Mohamed Ali. Elle est belle cette version, 18h55.
France Inter, le 18-20, un jour dans le monde.
L'édito de Vincent Giret du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez ce soir Vincent en Indonésie où avait lieu aujourd'hui l'élection du gouverneur de Jakarta.
Oui Nicolas, et cette élection locale a une dimension nationale, peut-être même internationale. Le décor d'abord. L'Indonésie, beaucoup l'ignorent, a une double caractéristique. C'est le plus grand pays musulman au monde, 200 millions de musulmans sur 250 millions d'habitants. Et c'est aussi une démocratie, oui une démocratie à bien les égards exemplaire, avec des élections libres, une presse de grande qualité, un jeune président honnête, proche du peuple, sans être populiste, des écrivains de grand talent et même des intellectuels féministes. L'Indonésie, c'est aussi la plus grande réussite, la success story asiatique, comme on n'en avait pas vu depuis la Corée du Sud, un pays s'extirpant de la dictature militaire à la fin du siècle dernier et réussissant une transition démocratique quasi impeccable. L'Indonésie, c'est enfin une société ouverte, multiculturelle, revendiquée, assumée, composée d'une trentaine d'ethnies et de langues unies dans une devise, tout sauf factice, l'unité dans la diversité. Seulement voilà, c'est aujourd'hui que se tenait le deuxième tour d'une élection suivie par le pays tout entier, celle du gouverneur de la capitale, Jakarta, 11 millions d'habitants. Après une campagne passionnée, elle opposait d'un côté Basuki Purnama, 50 ans, issu d'une double minorité chrétienne, plus précisément protestante et chinoise. Et de l'autre côté, un ancien ministre de l'éducation, Annie Basuki Dewan, lui d'origine musulmane.
Et il s'est passé un incident religieux, Vincent, pendant la campagne.
Eh bien oui, Nicolas, archi-favori, Purnaman a commis une grosse maladresse lors d'un meeting. Pour répondre à certains de ses adversaires qui tentaient d'instrumentaliser contre lui son identité chrétienne, il a demandé aux électeurs de ne pas croire à cette sourate du Coran qui recommanderait aux musulmans de ne pas prendre pour amis des juifs et des chrétiens. Le candidat voulait bien sûr convaincre les électeurs de ne pas le juger en fonction de ses origines chrétiennes. Mais en touchant au Coran, au livre saint, il a soudain déchaîné les passions. Des centaines de milliers de manifestants ont exigé son arrestation, puis des groupes fondamentalistes musulmans, il en existe aussi en Indonésie, ultra minoritaire certes, eh bien l'ont traîné devant la cour sous l'accusation gravissime de blasphème. Puis l'affaire a semblé s'être calmée, mais on se trompait. Tout laisse en effet penser que ce faux pas et cette nouvelle querelle religieuse a fait tomber, ce soir, le candidat chrétien et archi-favori Purnama. Les résultats ne seront proclamés officiellement que début mai, mais notre correspondant Bruno Philippe nous confiait à l'instant que Purnama semblait largement battu ce soir par son challenger musulman à plus de 58% des suffrages.
Alors que faut-il en conclure, Vincent ?
Alors, il y a deux hypothèses. Eh bien, pour les optimistes, les optimistes concluront, Nicolas, qu'après tout, eh bien, la défaite loyale dans les urnes appartient à la démocratie et que de nombreux musulmans ont quand même voté pour le candidat chrétien qui, bien que battu, a dépassé, ce n'est pas négligeable, les 40% des voix. Ces optimistes ajouteront, et c'est tout à fait juste, que les grandes associations musulmanes, fortes de plusieurs millions de membres, ont jusqu'ici toujours été impeccables dans la lutte contre l'extrémisme et le fanatisme religieux. Les pessimistes, eux, diront que c'est quand même un coup d'alerte, Nicolas. Une intellectuelle indonésienne, interrogée par notre correspondant ce soir, lui disait, pour la première fois, l'appartenance religieuse l'a emporté sur le jugement politique et la qualité d'un candidat. Nous filons un mauvais coton. Bon, si on la suit, l'Indonésie, déjà marquée par des attentats, n'échapperait donc pas aux tentations conservatrices et identitaires et serait tout à fait préoccupant. Mais il y a en Indonésie ce qui manque souvent dans bien des pays musulmans. Une société civile, vivante, exigeante, démocratique, qui tient beaucoup à sa liberté. Faisons le pari que c'est ce qui la tiendra debout.
Vincent Giray du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne en quelques petits mots. Sondage, oui, sondage, mode d'emploi. Intervenez 01 45 24 7000 avec toutes vos questions. Franceinter.fr et Twitter également. Le journal à suivre.